Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, l'émission Lille Info, comme chaque mercredi, entre 16h et 16h30. Ils sont en licence pro à l'IAE de Lille, l'école universitaire de management. Ils préparent une mission commerciale, donc de licence pro, Euro-IAE Lille. Ça va se passer en Turquie. Bonjour Antoine Lemaire.
Bonjour.
Et bonjour Olivier Desfossés.
Bonjour.
Donc tous les deux, vous êtes étudiants en licence pro.
Voilà.
Oui, c'est ça, oui.
Et vous avez monté un projet, là, depuis quelques mois. Le projet d'aller en Turquie, représenter en quelque sorte des entreprises françaises et de les aider à ouvrir, à s'ouvrir au marché turc, c'est ça ?
Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Donc on a créé une association qui s'appelle Istanbul Euro-PME, qui nous a permis de monter ce projet. On a tout d'abord cherché à trouver des financements de la part des entreprises pour pouvoir aller à Istanbul sur place. Là, actuellement, on est encore en phase de pré-contact et de relance auprès d'entreprises turques, de fournisseurs ou encore distributeurs, selon les attentes des entreprises. Et voilà, on essaie de trouver le maximum de solutions pour aider ces entreprises, comme vous l'avez dit, à entrer sur le marché turc.
Alors, c'est bien sûr un projet étudiant dans le cadre d'une licence pro qui se fait à l'IAE. On peut peut-être présenter ce qu'est cette école.
Alors, l'IAE Lille, en fait, c'est une école qui dépend de Lille, en fait. Donc une école de tout ce qui est autour du commerce, marketing, management en fait. Et elle propose différentes licences pro et différentes licences générales et masters, dont la nôtre qui est les PME européennes sur le marché international. Je sais qu'elle propose différentes licences pro au niveau de la distribution, de la grande distribution, au niveau du marketing, au niveau de l'événementiel et puis différents masters. Il faut savoir aussi que notre licence est aussi en partenariat avec le lycée Montebello. Donc on a quelques cours à Montebello et quelques cours à l'IAE.
Alors le lycée Montebello, où il y a un BTS d'ailleurs, et au sein de ce BTS, des enseignants qui ont souhaité aussi développer leur projet de BTS et l'ouvrir à la licence. Et bien sûr, ils ont pensé à l'IAE, l'interface, en lien avec l'ILIN.
Oui, tout à fait. Donc ce partenariat est à l'origine entre l'IAE, comme vous l'avez dit, et Montebello. Donc au niveau de l'IAE, c'est Marie-Pascale Milcan qui s'occupe de notre formation. Au niveau de Montebello, c'est Jocelyne Grou et Louis Buenano qui sont professeurs, comme vous l'avez dit, dans un BTS de commerce international et qui sont aussi à l'origine de la création depuis plus de 7 ans de cette licence pro-PME européenne sur le marché international et qui nous donnent certains cours, que ce soit de la douane, de la communication ou avec qui on fait des rapports réguliers concernant cette mission, par exemple.
Donc, cette école universitaire de management, elle vous permet d'avoir des compétences, des connaissances dans le domaine aussi du commerce international. Pourquoi avoir choisi la Turquie, précisément ?
Alors, il faut savoir qu'on a eu le choix. En fait, les professeurs que Olivier a cités nous ont proposé différents pays, donc 5 pays. Donc des pays tels que la Slovénie, la Slovaquie, la Turquie, le Maroc et la Pologne. Et après, on a regardé en fonction des différents critères, au niveau économique, le potentiel qu'on pouvait trouver sur place, en fait. Puis on a choisi la Turquie, dont Istanbul, en fait. Et c'est pour ça que le but de cette mission commerciale, c'est forcément de trouver des PME qui souhaitent s'exporter à l'international et puis trouver différents fournisseurs aux clients là-bas sur place.
Alors, François Hollande, président de la République française, est allé en Turquie justement là-bas un peu en mission, en visite d'État. Est-ce que pour vous ça peut être une bonne opportunité également d'être dans ce sillage ?
Bah oui, je pense. C'était pas du tout prévu à l'origine. On avait préparé notre mission en fait avant cette visite de François Hollande. Mais ça pourrait nous permettre, entre guillemets, de surfer sur ce passage à l'université de Galatasaray qu'il avait eu et pouvoir apporter une certaine plus-value du fait de notre présence française à Istanbul et en tant qu'étudiant.
Nous sommes toujours avec Olivier Desfossés et Antoine Lemaire pour nous présenter donc leur mission commerciale, lycée professionnel Euro IAE Lille, une mission qui va les entraîner à Istanbul. Comment vous avez préparé le terrain? Qu'est-ce que vous avez déjà comme perspective là-bas avant d'y aller?
Donc au préalable, on a dû chercher forcément des entreprises françaises, donc des PME, qui souhaitent s'exporter à l'international et forcément en Turquie. Forcément, ils devaient répondre à nos critères qui sont une PME et puis s'ils souhaitent ou non s'exporter en Turquie. Donc on a dû rechercher des entreprises. Une fois qu'on a trouvé ces entreprises, donc après tout dépend, là c'est au cas par cas en fait. Tout dépend des entreprises en fait et... Donc les entreprises, on discute avec eux, on leur dit notre façon, leur façon de faire pour s'exporter. Ils nous présentent leur façon de faire, on explique leur méthode, leur technique. Puis donc tout dépend si eux cherchent plutôt des clients ou des fournisseurs ou des distributeurs pour vendre leurs produits ou pour même importer des produits, ça peut être de l'importation. Et après, on nous prépare des rendez-vous sur place. Donc c'est à nous de chercher en tant qu'étudiants pour ces entreprises françaises. Une fois sur place des rendez-vous et après en fonction des rendez-vous de trouver des clients ou des fournisseurs potentiels.
Combien d'entreprises vous avez trouvé qui paraissent intéressées au départ?
Là pour le moment on est un total de 7 entreprises qui paraissent intéressées et auxquelles on a exposé, comme l'a dit Antoine, tout ce qu'on pouvait faire pour eux, à savoir développer leur export ou leur import, développer aussi leur notoriété en Turquie, peut-être leur permettre de négocier des contrats et de créer des partenariats, tout en leur assurant un suivi post-mission. Nous, le travail qu'on va faire sur place sera rendu à l'entreprise et il y aura un suivi derrière. Donc le travail aura été fait de manière sûre et sera continué.
Cette entreprise, c'est déjà un beau portefeuille, entre guillemets, pour vous ?
Oui, on peut dire ça comme ça, oui. On peut les citer, donc des entreprises telles que DSD Systèmes, Doublé ou encore Siloc, qui sont quand même des PME, mais des PME, je dirais, fortes, des grandes PME, quoi. Et donc ça fait quand même, oui, ça fait quand même déjà pas mal d'argent. C'est vrai que cette entreprise, c'est déjà pas mal, oui.
Est-ce que ces entreprises avaient déjà des contacts, des relations avec la Turquie ?
Alors là, tout dépend. Là, c'est vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, au cas par cas. Nous, pour savoir, avec Olivier, on travaille pour l'entreprise DSD Systèmes, qui est déjà exportée sur différents pays, donc à l'international ou dans des pays européens. Et par exemple, en Turquie, ils n'ont pas encore de contact, et c'est à nous, en tant qu'étudiants, donc à Olivier et moi, de chercher des entreprises pour eux, puis de trouver des clients sur place.
Est-ce qu'il y a une approche culturelle ou interculturelle à avoir au préalable pour aller en Turquie ?
Pour cela, on a une professeure de marketing qui est turque, donc qui nous a enseigné certains aspects multiculturels. Et on a aussi une ancienne élève qui était au lycée de Montebello, qui est venue nous donner des cours de turc, les bases, et nous expliquer ce qu'il fallait faire ou ne pas faire, par exemple, quand on était à Istanbul. Mm-hmm. Il y a certaines choses, par exemple, qui ne nous viendraient pas à l'idée. Le fait de croiser ses jambes et de montrer sa semelle, c'est la pire insulte qu'on puisse faire en Turquie, en fait, apparemment. Et pour nous, Français, on n'en a pas forcément confiance. Donc on est content de savoir ces choses-là avant de partir.
Bon, pas se faire avoir en arrivant là-bas, en faisant des gestes déplacés.
Oui, justement, c'est un travail qu'on fait tout en amont, en fait, justement, pour éviter de... je dirais de faire pas des bêtises, mais disons d'être bien préparé avant d'arriver en Turquie, pour réussir au mieux notre mission commerciale.
Donc c'est... Cette mission, vous avez les moyens de la réaliser? Vous avez trouvé des financements?
Au niveau des financements, pour éclaircir un peu les choses, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé aux entreprises qui étaient partenaires de nous aider à financer le logement, donc une auberge de jeunesse, et le transport jusqu'à Istanbul. Le reste de la prestation étant offerte par l'IAE de Lille, en fait, donc ça représente une somme normalement assez minime pour des entreprises telles que des PME. Et ça leur permet par exemple de ne pas avoir un trou dans leur budget. Et nous, après, derrière, on va faire ce travail qui est très professionnalisant pour nous, que ce soit au niveau de l'expérience et pour ajouter une plus-value à notre licence professionnelle.
On peut imaginer que vous ayez une gratification si vous arrivez à négocier des choses intéressantes.
Il faut savoir qu'on n'est pas considéré. Les entreprises nous envoient pas à Istanbul en tant qu'étudiant. Ils nous demandent vraiment de nous présenter en tant que professionnel.
Présente plus.
Mais quand on est étudiant, normalement, on peut pas prétendre à une gratification supplémentaire. Sans parler de gratification, on pourrait avoir la possibilité de peut-être de faire notre stage.
Oui, il faut savoir qu'après donc notre mission commerciale, on a un stage de 4 mois à faire. Toujours dans une entreprise qui souhaite s'exporter à l'international. Et donc ça peut être en France ou à l'étranger, le stage. Et c'est vrai que si la mission commerciale peut être bien réussie, je sais qu'il y a, quelques élèves dans notre classe qui ont déjà la possibilité de faire leur stage dans l'entreprise qu'ils vont représenter en Turquie.
Donc on va parler un petit peu de votre groupe. Vous y allez à deux ou à plus de deux là ?
À 21 pour être précis, plus les Jocelyne Grou et Louis Bonanno, donc nos deux anciens professeurs, anciens professionnels du commerce international.
Donc ah, on sera un groupe de 23. Monde, ouais. Donc vous avez déjà votre point de chute, vous l'avez dit, auberge de jeunesse, etc. Est-ce que qu'est-ce que vous allez emmener dans vos bagages d'utile, par exemple ?
Bah, déjà, forcément, des habits, je dirais, commerciaux, évidemment, pour être. Je dirais bien être présentable justement le jour des différents rendez-vous qu'on aura ou en contact avec les clients et fournisseurs. Et puis forcément quelques outils pour l'interculturel comme on a évoqué tout à l'heure pour bien représenter les entreprises forcément en Turquie.
Une classe comme la vôtre qui part presque entièrement en Turquie, est-ce qu'il y en a d'autres à l'IAE qui vont dans d'autres pays ou c'est le seul groupe cette année qui part à l'étranger dans ce cadre ?
En ce qui concerne notre licence à nous, ça s'est fait les années précédentes. Mmh. Donc il y a eu certaines, par exemple l'année dernière c'était à Budapest. Mmh. On a eu certaines missions qui se sont déroulées en Allemagne, au Brésil ou encore en Pologne. Ou la République tchèque. La République tchèque, c'était le premier pays dans lequel il y a eu une mission export. Après, je sais qu'à l'IAE, pour en connaître certains étudiants partent à l'étranger, mais pas de cette manière-là, pas à 21. C'est vraiment, nous, un projet collectif, une association, donc c'est vraiment quelque chose de concret et qui nous apportera nos fruits, enfin, l'expérience, les fruits de notre travail.
Donc, on parlait tout à l'heure des bagages, des valises. Est-ce que vous allez emmener aussi des objets symboliques de notre région, peut-être pour offrir, et lesquels ? Est-ce que vous en avez une idée ?
C'est vrai que c'est une bonne question, c'est vrai. Déjà, si on peut prendre des échantillons pour les entreprises, peut-être que des produits locaux que l'on peut représenter en Turquie, effectivement, pourquoi pas, oui. Ça peut être une bonne idée, oui.
Bon. Donc, sachant que tous ne boivent pas forcément de la bière là-bas, vous allez faire attention.
Oui. Oui, là-bas, le secteur porteur. Faut savoir que le secteur porteur en Turquie, et en particulier à Istanbul, c'est le textile. Donc, c'est vrai que la spécificité de la bière, par exemple, c'est ce que vous évoquez, c'est ça. C'est vrai que c'est un peu en contradiction, forcément, avec la Turquie, oui.
Est-ce qu'il y a des objets qui représenteraient physiquement la région, symboliquement la région, et que vous attacheriez à présenter, je ne sais pas, les places d'Arras ou quelque chose qui pourrait rester après sur les cheminées ou les bureaux des gens que vous allez rencontrer ?
Moi, au début, j'avais pensé, pour être tout à fait franc, au maroilles. Donc, quand vous parlez de bureaux, c'est pas vraiment adapté. Après, en termes d'objets, on a vraiment beaucoup d'objets quand on vend à des boutiques de souvenirs qui peuvent nous rappeler le Nord-Pas-de-Calais. On peut aussi leur parler de notre région. Au niveau touristique, il y a peut-être pas mal de choses à faire aussi ici, au niveau culturel. Ça peut aussi les intéresser de ce côté-là, je pense.
Vous vous sentez un peu ambassadeur ?
Ambassadeur de l'IAE, enfin de notre licence, oui. De l'IAE, oui, peut-être, oui.
De la région. Ce serait ambitieux.
Ouais, ce serait vraiment ambitieux ouais, de dire ça, qu'on est ambassadeur de la région. Ouais. Modestement, on peut dire ouais, mais bon.
Voilà, donc cette mission, elle va partir quand exactement ?
Donc on part du samedi 23 février pour revenir le lundi 3 mars.
Ça fait un bon petit moment.
Oui, quand même une dizaine de jours. Ouais.
Bon. Donc, je ne sais pas le temps qu'il fera là-bas en Turquie. Vous n'avez pas préparé le plan météo ?
Actuellement, on a regardé, c'est aux alentours de 15 degrés.
Oh, c'est bien.
Ce qui fait une différence par rapport à ici en ce moment.
Oui.
Donc ça sera non négligeable. On n'aura pas forcément les mêmes tenues à adopter.
Voilà, bien, merci de nous avoir présenté votre projet. Donc, un projet mission commerciale licence pro euro de l'IAE de Lille, IAE École Universitaire de Management, rattachée à l'Université Lille. Et bon voyage, et bonne mission.
Merci à vous et merci de votre accueil.
Merci à vous. Et pareil, merci de votre accueil.
écoutez Lille Info sur Radio Campus comme chaque mercredi entre 16h et 16h30. Radio Campus, www.campuslille.com. Vous pouvez bien sûr réécouter les archives de cette émission et de toutes les autres dès le lendemain sur le site dans la page des programmes. L'artiste Alexis Guyet est actuellement en résidence dans le territoire, et notamment à Lille 1 et à Lille 3. Et donc, dans le cadre de ses rencontres avec ce territoire universitaire, eh bien, Alexis Guyet présentera plusieurs événements dans nos universités. Tout d'abord à Lille 1, ce soir, avec une rencontre autour du thème The Last Lecture. Voilà, une conférence illustrée. Ça se passe à l'amphi Archimède, donc au bâtiment M1 de la cité scientifique de l'Université Lille 1. C'est à partir de 19h et on pourra discuter à l'issue de la conférence avec cet artiste que je recevrai par ailleurs la semaine prochaine dans le magazine Quoi de Neuf, donc le magazine qui suit cette émission Lille 1 Info. Autre rendez-vous, ce sera la semaine prochaine, le lundi 17 février. Ce sera au Kino à l'Université de Lille 3 pour la présentation de Twilight Zone, la quatrième dimension. Donc là, c'est à 18h30 avec la conférence d'Alexis Guyet. Donc, après l'entracte de 19h30, vous pourrez assister à la projection du film Twilight Zone. Une séance donc suivie d'une discussion avec l'artiste. Ce film date de 1983. Il dure 1h40. Voilà, la semaine prochaine, lundi, à Pont-de-Bois, donc l'Université Lille 3, au Kino, bâtiment A. L'info est terminée. Voici maintenant le magazine Quoi de Neuf, comme chaque mercredi entre 16h30 et 18h. Magazine consacré à l'actualité culturelle régionale. Et on revient un petit peu en complément de ce que j'ai dit tout à l'heure autour de cet artiste Alexis Guyet, avec un petit montage autour d'un thème que j'ai réalisé pour vous et aussi pour lui. Il en comprendra le sens caché et qui s'appelle The Green Door sur Campus 106.6 FM.
The Green Door. Let us think about adventure. You're walking along Broadway. You like looking into the shop windows, and you're deciding which theater to go to. You're asking yourself, do I want something to make me laugh or something to make me feel sad? Suddenly, a hand is placed on your arm. You turn to look deep into the eyes of a beautiful woman, wonderful in jewels and richly dressed. Quickly, she puts into your hand a piece of hot, very hot, bread and butter. She cuts a small piece of cloth from your coat. She speaks one word, and it means nothing to you. Then, quickly, she runs down a side street, looking back fearfully over her shoulder. That would be pure adventure. Would you accept it? No. Your face would turn red, you'd drop the bread and butter, you would walk straight along with one hand over the hole in your coat. This you would do if you were not one of the very few in whom the pure spirit of adventure is not dead. There have never been many true adventurers. You can read stories about men called adventurers, but they were really businessmen. There was something they wanted. Lady, or money, or a country, or honor, and so they got it. But a true adventurer is different. He starts out without any special purpose. He's ready for anything he may meet. There have been many half-adventurers, and they were great men. History is rich with their stories. But each of them had a special purpose. They were not followers of true adventure. In the big city of New York, romance and adventure are always waiting. As we walk along the streets, they're watching us. We look up suddenly and see a face in a window. The face seems to interest us strangely. Or in a quiet street, we hear a cry of fear and pain coming from a house where no one lives. A cab takes us to a strange door instead of to our own. The door opens, and we are asked to enter. At every corner, eyes look toward us, or hands are raised, or fingers point. Adventure is offered. But few of us are ready to accept. We are ready to do only the things we do every day. We wish only to do the things that everyone else does. We move on. And someday we come to the end of a long, quiet life. Then we begin to think. Then, when it is too late, we are sorry that we have never known true romance and adventure. Rudolf Steiner was a true adventurer. There were few evenings when he did not go out seeking something different. He was always interested in what might be waiting around the next corner. Sometimes adventure led him into strange places. Two times the cops arrested him. Again and again he discovered that he had lost all his money. One night his watch was taken from him. But he continued happily to accept every offer of adventure. One evening, Rudolf was walking slowly along a street in the older part of the city. Many people were walking along the street that night. Some were hurrying home. Others were going to have their dinner at some restaurant. The adventurer was a pleasant and good-looking young man. By day, he worked in a music shop. He walked quietly and watchfully. He passed a busy restaurant and saw beside it an open door. Above the door, a sign was hanging, a sign for a doctor's office. A very large black man stood at the door. He was strangely and brightly dressed in red and yellow. Quietly, he was offering small pieces of paper to those who passed by. Rudolf had often seen such a thing before. The black man's small pieces of paper would have the name of the doctor in the office on the third floor. Usually, Rudolf walked past without taking the paper that was offered. But tonight, the paper was put into his hand very quickly. He kept it, smiling. When he had walked on further, he looked down at the paper. Surprised,
he turned it over and looked again with interest. On one side there was nothing. On the other side were three words. The Green Door.
Oh yeah, shit, this is right. Right up your alley. Gotta start it off right. Yep, check, check, check. Straight leg Bobby dumping. We're past bend and Mattel sex dolls. Now you can't play the role as kid. Mini skirts for children, only 10 bucks a pop. Same price for porn when you order from the cable box. Fuck all that, give me them 30-second clips. Tommy's bookmarks, bitch. Right click and then you save it. Satisfaction, not action. Jackson, call me the milk funder. I wonder if I'm addicted to crow's feet. Teach a teeth sucker a thing or two about a street Latinas on the Bang Blossom Park Avenue. Bow wow wow, yippee yo, yippee yay. Snoop tell Dre that I just fucked his wife. That's okay though, after I bang the dam, I wrote some lines, placed them underneath the diaphragm. For him, as for you, Huggy Bear, promoting more psychics. Calvin, you know what? Don't fuck with the psychic. Time does fly when you're having fun, just like a Bibbit dumb, where you still don't hear a gun.
Give me a name, a street, a time, a place, a date, and tomorrow you'll start worrying that you'll be late. I got stalker hooker, don't look up, I'm there, what's up? Let's put up with our eyes closed shut in your daddy's truck. What kind of colors do you see in me when we're breathing in the back of a Civic EX, gray with rain on tint, one-handed broad lease, I'm under the sheets. Is this density to be sex me in your freshman memory? I'm not hearing about your third or your last boyfriend or the size of the blunt object that he beat you with. Just let me or DJ D or Anthony treat you right for the first time. So bad you won't believe, girl. Go. Oh.
And then, three steps beyond, another man threw down the paper the black man had given him. Rudolph picked it up. There was the doctor's name with the street and the number. This was what Rudolph had expected to find on his own piece of paper. The young adventurer stopped at the corner to think. Then he went across the street, walked further, and returned across the street to the first side. Now he again walked past the black man. Again he received a piece of paper. 10 steps away, he looked at it. There were the same words that had appeared on the first paper. The Green Door. 3 or 4 other pieces of paper were lying in the street where they had been dropped. He looked at them. Every one had the doctor's name on it. 2 times now, adventure had asked Rudolph to follow. He was ready. He walked slowly back to where the big black man stood. This time, as he passed, he received no paper. The papers were offered to some, but not to all that passed. It seemed to Rudolph that the large black face looked coldly at him. The look was painful to Rudolph. It seemed to say that he had failed. It seemed to say that he was not a true adventurer. Standing away from the crowd of people, the young man looked up at the building. He believed that his adventure must be somewhere inside. The building was 5 floors high. A small restaurant was on the ground floor. On the floor above that was a hat shop. Above the hat shop was the doctor's office. Above this were several signs of dressmakers, music teachers, and other doctors. On the top floor, people seemed to have furnished rooms. Rudolph entered the door and walked quickly up. On the second floor, he stopped. The hall was not very well lighted. There were 2 gas lights, one far to his right and the other nearer to his left. He looked toward the nearer light and saw a green door. For one moment, he waited. Then he remembered the cold face of the black man at the door below. He walked straight to the green door, striking it loudly with his hand. Then he waited to see who would open the door. In the moments that passed then, he could feel the quick breath of true adventure. What might not be behind the wood of that green door? bad men planning bad acts, or beauty in trouble, or death, or love. Anything might be there. A soft sound was heard, and the door slowly opened.
Midnight, one more night without sleeping. Watching till the morning comes creeping. Green door, what's that secret you're keeping? There's an old piano and they play it hot behind the green door. Don't know what they're doing, but they laugh a lot behind the green door. Wish they let me in so I could find out what's behind the green door. Not once tried to tell them I've been there. Door slammed, hospitality's thin there. Wonder just what's going on in there. Saw an eyeball peeping through a smoky cloud behind the green door. When I said Joe sent me, someone laughed out loud behind the green door. All I want to do is join the happy crowd behind the green door.
A girl not yet 20 stood there. Her face was very white and she was very weak. She put out one hand and started to fall. Rudolph caught her and carried her inside and put her down on a bed. He closed the door and looked around. It was very clean, but she was very poor. That was what he saw. The girl lay with her eyes closed, but now she opened them, and the young man looked at her face. He had never seen it before, but he knew that it was a face that he had always hoped to see someday. Her eyes were gray, her nose was small, her hair was brown. It was a face to make this a wonderful adventure, but her face was very thin, and it had no color. The girl looked at him and then smiled.
I fell, didn't I?
She said.
That is what happens when you don't eat for 3 days.
What? Cried Rudolph. Wait till I come back. He rushed out the green door and down to the street. In 20 minutes he returned. Both arms were full of things from a food shop and from the restaurant. He put them on the table. Bread and butter, cold meats, cakes, fish, milk, and more. Only little fools, said Rudolph. Stop eating. You must not do things like that. Dinner is ready. He helped her to move to a chair at the table and asked, Is there a cup for the milk?
There, by the window,
she answered. He filled the cup. Drink that first, he ordered. And then you shall have something else. And may I be your guest? He moved another chair to the table and sat down. A little color began to come into the girl's face. She started to eat like some small wild animal that has been without food for a long time. She seemed to think it was not strange that this young man was helping her. Her need had been so great that she was ready to accept any help. But slowly, as her strength returned, she began to tell him her little story. There are 1,000 stories like hers in the city every day. It was the shop girl's story. Not enough pay, illness, a lost job, lost hope. And then, the adventurer at the green door.
was born. Once I was here, then I was gone. Now I'm back and it feels so weird. Cause all these years I wasn't here. Years have passed, some things have changed. But there is one thing that's very strange. A pretty girl looks like an angel. Stole my heart and I'm in danger. The girl that lives next to me, she turns away from me. I don't know why. The girl that lives next to me, she never talks to me. I think she's shy. Behind the green door, when I look and see that she is there, I wanna jump from my window and be with her. But here everything is new for me. She might get scared and run from me. So I just watch her from far away, night and day, to see if she's okay. And if one day she looks my way, I'll show her then how much I care. The girl that lives next to me, she turns away from me. I don't know why. The girl that lives next to me, she never talks to me. She's shy behind the green door. She never talks to me. I think she's shy.
But to Rudolph, it was not a little story. It was a big story. "And you suffered all that?" he said.
"It was really bad,"
said the girl. "And you have no family or friends in the city?"
"None."
"I'm all alone in the world, too," said Rudolph.
"I'm glad of that,"
said the girl. And it pleased the young man to hear that she was glad he was alone. Very suddenly, her eyes closed. It was not easy for her to open them again.
"I'm falling asleep,"
she said.
"And I feel so good."
Rudolph rose and took his hat. "Then I'll say good night. A long night's sleep will be fine for you." He held out his hand and she took it and said,
"Good night."
But her eyes asked a question. He answered with words, "I'm coming tomorrow to see how you are." Then, when he was at the door, she asked,
"How did you happen to come to my door?"
He looked at her for a moment and felt a sudden pain. What if those pieces of paper had been placed in some other man's hand? Quickly he decided that she must never know the truth. He must never let her know that he knew that she had taken such a strange way to call for help. "I was looking for someone else," he said. The last thing he saw was her smile. Outside the door, he stopped and looked around the hall. And then he went along the hall to the other end. He came back and went to the floor above and walked to the far end of that hall. Every door in the house was painted green. He went down to the street. The black man was there. Rudolph showed him the two pieces of paper with the words, "The Green Door." "Why did you give these to me?" he asked.
I give some of those and some of the doctor's name,
the black man said.
I'm paid a dollar to give those.
But what do they mean? Rudolph asked. The black man smiled.
There it is,
he said. He pointed his finger down the street.
But you are a little late.
Rudolph looked down the street. There, he saw a theater. And over the theater was a big sign in electric lights. It said, The Green Door. In the shop on the corner near his home, Rudolph stopped to buy a newspaper. He stepped outside again and said to himself, I know that it was planned that I should meet her that way. I know it. For Rudolph Steiner was a true follower of romance and adventure.
Voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à écouter donc ce petit montage que j'ai réalisé à partir d'un texte qui s'appelle The Green Door et de chansons qui ont également ce titre. Cela en hommage et en complément du travail d'Alexis Guyet que vous pourrez apprécier ce soir. Donc venez nombreux, hein, c'est à partir de 19h à l'Université Leland, c'est au bâtiment de mathématiques, donc M1. C'est l'amphi Archimède, en fait, qui est dans ce bâtiment. C'est fléché, tout ça. Donc, 19h, eh bien, rencontre d'Alexis Guyet avec le territoire universitaire de Lille pour The Last Lecture, une conférence illustrée, donc, avec discussion à l'issue de la conférence. Eh bien, nous y serons. J'espère qu'on se retrouvera là-bas ce soir. C'est à 19h. Bâtiment M1, cité scientifique, métro, cité scientifique, bien sûr, professeur Gabillard.